Chapitre 17. Je me réveille et découvre que Rocky m'observe. C'est la même chose tous les matins, et pourtant c'est toujours aussi bizarre. Comment sais-je qu'une créature pentagonale et symétrique dépourvue d'yeux me regarde? Je le sais, c'est tout. Grâce à son langage corporel, sans doute.
Vous réveillez? Commence-t-il.
Ouais, réponds-je en sortant de mon lit et en m'étirant. À manger. Les bras robotiques récupèrent quelque chose dans une trappe et me tendent une boîte chaude. Je l'entrouvre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. On dirait des œufs brouillés et une saucisse. Café. Les bras obéissants me tendent un gobelet de café. Lorsqu'il y a de la pesanteur, j'ai droit à un gobelet, plutôt qu'une pochette lorsque la centrifugeuse est à l'arrêt. Je trouve cela génial. Je ne l'oublierai pas quand je laisserai mon commentaire sur Yelp.
Vous n'êtes pas obligé de me regarder dormir, vous savez, dis-je à Rocky.
Il se tourne vers l'atelier qu'il a installé dans sa partie du dortoir.
Règle culture éridienne, devoir observer,
explique-t-il en attrapant un outil et en commençant à le manipuler. Ah, le fameux mot en C. La culture. Nous avons accepté tacitement de ne pas discuter des questions de culture. Cela permet d'éviter de menus conflits. Je fais ça comme ça, parce que j'ai été élevé comme ça. Heureusement, nos cultures respectives ne sont jamais entrées directement en conflit. Pas encore. Je mange mon petit déjeuner et je bois mon café. Rocky ne me dit rien pendant ce temps. Comme à son habitude. De la politesse éridienne de base. Déchets. Les bras robotiques me débarrassent de la boîte vide et du gobelet. Je monte dans la salle de contrôle et m'installe dans le fauteuil du pilote. J'affiche la vue par télescope sur le moniteur principal. Adrienne apparaît au milieu de l'écran. Cela fait 10 jours que je la regarde grossir doucement. Plus nous nous en approchons, plus mon respect pour les aptitudes en astronomie de Rocky grandit. De fait, toutes ses observations sur la masse et les mouvements de la planète se sont révélées exactes. Avec un peu de chance, ses calculs gravitationnels seront bons aussi. Sinon, la mise en orbite du vaisseau risque de se terminer très mal pour nous. Adrianne est une planète vert pâle dont l'atmosphère supérieure est parcourue de nuages blancs arachnéens. Impossible d'en voir la surface. Une fois de plus, je suis impressionné par les logiciels et la capacité de traitement de l'ordinateur de bord. Nous fonçons dans l'espace en tournoyant sur nous-mêmes, et pourtant l'image est parfaitement nette et stable.
On est tout prêt maintenant.
Rocky se trouve 2 niveaux en dessous, mais je n'ai pas besoin de hausser la voix. Je sais qu'il m'entend parfaitement.
Vous connaître son air? Question,
s'écrie-t-il. Tout comme je suis au courant de son ouïe exceptionnelle, lui est conscient de mes limites.
Je l'ai justement réessayé.
J'ouvre l'écran du spectromètre. Le Dernière Chance s'est montré incroyablement fiable à tous les niveaux, mais on ne peut pas espérer que tout fonctionne parfaitement. Le spectromètre, par exemple, nous a fait des siennes. Je pense que cela a un rapport avec le numériseur. Je l'ai essayé tous les jours, et chaque fois il m'a affiché le même message. Données insuffisantes pour pratiquer analyse. Je le pointe sur Adrianne et tente de nouveau ma chance. Plus nous approchons de notre cible, plus nous recevons de lumière réfléchie. Peut-être le spectromètre parviendra-t-il, cette fois, à me dire de quoi est constituée cette atmosphère. Analyse en cours. Analyse en cours. Analyse en cours. Analyse terminée.
Ça marche! M'exclamai-je.
Fonctionner? Question?
Demande Rocky d'une voix plus haut perchée que d'habitude, en se précipitant dans son tunnel pour rejoindre le bulbe transparent de la salle de contrôle.
Comment être R Adrianne? Question.
Je lis les résultats sur le moniteur.
Apparemment, 80% de dioxyde de carbone, 7% de méthane, 1% d'argon et quelques traces infimes. C'est une atmosphère assez dense. Les gaz sont incolores, mais la surface demeure invisible.
Normalement, surface visible depuis espace? Question.
Si l'atmosphère laisse passer la lumière, oui.
Yeux humains, organes incroyables. Jaloux.
Pas si incroyable que ça. Je ne vois pas la surface d'Adrianne.
Quand l'air est très épais, il ne laisse pas filtrer la lumière. Mais ça n'a pas d'importance. Le méthane, c'est bizarre.
Expliquez.
Le méthane ne dure pas. Il se décompose très vite dans la lumière du soleil. Comment expliquer sa présence?
Géologie crée méthane. Dioxyde de carbone plus minéraux plus eau plus chaleur fabriquer méthane.
Oui, possible. Mais il y en a beaucoup. 8% d'une atmosphère très épaisse. La géologie peut-elle en produire autant?
Vous, théorie différente? Question.
Non. Avouez-je en me massant la nuque. Pas vraiment. Mais c'est bizarre quand même.
Divergence, être, science. Vous pensez divergence. Proposez théorie. Vous, humain scientifique.
Oui, je vais y réfléchir.
Dans combien de temps orbite? Question.
J'active la console de navigation. Nous sommes sur la bonne trajectoire et la poussée d'insertion orbitale aura lieu dans 22 heures. Un peu moins d'une journée.
Enthousiasme. Alors, étudiez échantillon astrophage à Hadriane. Échantillonneur vaisseau fonctionnait correctement? Question.
Oui, réponds-je sans en avoir la certitude. Rocky n'a pas besoin de savoir que je ne comprends que très vaguement le fonctionnement de mon propre vaisseau. Je fais défiler les instruments scientifiques jusqu'à trouver l'unité de collecte extérieure. J'examine le diagramme sur l'écran. Cela paraît assez simple. Le dispositif est une boîte rectangulaire qui se dresse à la perpendiculaire de la coque du vaisseau. Des portes s'ouvrent des deux côtés de la boîte. À l'intérieur, il y a un genre de résine collante, prête à attraper tout ce qui la touchera.
Comme du papier tue-mouche.
Un papier tue-mouche high-tech, mais un papier tue-mouche quand même.
Après collecte, comment échantillon entrer dans vaisseau? Question.
Simplicité n'est pas forcément synonyme de praticité. Pour ce que j'en sais, aucun système automatisé n'est là pour récupérer l'échantillon. Je vais devoir sortir pour aller le chercher.
Humain, incroyable, vous sortir espace?
Oui, sans doute. Les Iridiens ne se sont jamais donné la peine de développer la combinaison spatiale. Pourquoi l'auraient-ils fait? Pour eux, l'espace est vide d'informations sensorielles. Imaginez un humain nageant dans un océan de pétrole avec un équipement de plongée. Non, ce serait complètement idiot. Les Iridiens utilisent des robots pour leurs AEV. Le dernier chance ne disposant pas de ce genre de matériel, je vais devoir faire le boulot moi-même.
Incroyable, pas bon mot. Incroyable, compliment. Être meilleur mot.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque personne agir anormal, danger pour soi-même.
Ah! Fais-je en notant ce nouveau mot dans ma base de données linguistiques. Fou! Dans ma langue, on dit fou.
Fou. Humain, fou.
Je hausse les épaules. Fais chier! Lâchai-je.
Hé, hey, votre langage! Lança la voix dans la radio. Qu'est-ce qui se passe?
La fiole m'échappa et coula doucement vers le fond du bassin. Elle mit plusieurs secondes à parcourir un mètre, mais vêtue d'une combinaison d'AEV dans la piscine la plus grande du monde, je n'avais aucune chance de la rattraper.
J'ai lâché la fiole numéro 3.
D'accord,
nota Forrester.
C'est la troisième. On va devoir améliorer cette pince.
Ce n'est peut-être pas la pince, mais moi. L'outil dans ma main gantée et maladroite était loin d'être parfait, quoique ingénieux. Il transformait en manipulation précise les mouvements de mes doigts. Je n'avais qu'à appuyer sur une détente avec l'index pour que la pince se serre de 2 mm. Lorsque j'appuyais sur celle de mon majeur, elle tournait à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec l'annulaire et l'auriculaire, je pouvais la faire basculer de 90 degrés vers l'avant.
« Attendez, je vérifie sur la vidéo »,
annonça Forrester. Le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, du Centre Spatial Johnson, était une merveille d'ingénierie. Le bassin gigantesque était assez volumineux pour accueillir une réplique à taille réelle de la Station Spatiale Internationale. On y entraînait les astronautes aux AEV. Après une infinité de réunions, auxquelles je fus contraint d'assister,
La communauté de microbiologie avait convaincu Strat que la mission avait besoin de nouveaux outils. Elle avait accepté, à la condition qu'aucun d'entre eux ne compromettait des tâches critiques. Elle était décidée à utiliser du matériel standard ayant fait ses preuves pendant des millions d'heures d'utilisation, par des millions d'utilisateurs. Étant son petit toutou scientifique, il m'était revenu de tester le kit EMIV. EMIV était un acronyme désignant quatre mots que Dieu n'avait jamais destinés à finir ensemble. Équipement de microbiologie in vacuo. Les astrophages vivaient dans l'espace. On pourrait bien s'acharner à les étudier sur Terre, dans notre atmosphère terrestre, mais nous tirerions bien plus d'informations de recherche effectuées dans le vide et en apesanteur. L'équipage du Dernière Chance aurait besoin de ces outils. Je me tenais dans un coin du LFN, devant l'imposante masse de la SSI. Deux plongeurs nageaient tout près, prêts à me venir en aide en cas de pépin. La NASA avait installé une table de laboratoire en métal dans le fond du bassin. Le plus gros casse-tête n'était pas celui de produire des équipements capables de fonctionner dans le vide, même si la pipette, par exemple, avait dû être totalement redessinée pour pallier l'absence de succion. Le vrai problème était le gant, de la taille d'un jambon. Au contraire des astrophages, les humains ne se plaisaient pas dans le vide. Au moins, en apprenais-je beaucoup sur le fonctionnement de la combinaison d'AEV russe. Oui, russe, et non pas américaine. Strat avait entendu de nombreux experts qui s'accordaient tous sur le fait que la combinaison Orlan était la plus sûre et la plus fiable. Nous utiliserions donc du matériel russe. « D'accord, je vois ce qui s'est passé », dit Forrester dans mon casque audio. « Vous avez demandé à la pince de s'incliner, au lieu de quoi elle a lâché prise. Les micro-câbles internes doivent être emmêlés. J'arrive. Vous pouvez remonter avec la pince ?»«
Bien sûr. » répondis-je en faisant signe aux plongeurs que j'allais revenir à la surface. Les hommes acquiescèrent et vinrent m'aider. Une grue me hissa hors de l'eau et me déposa sur une plateforme. Plusieurs techniciens accoururent pour m'aider à m'extirper de la combinaison. En réalité, ce n'était pas très difficile. Il suffisait de sortir par la trappe arrière. Ces combinaisons chrysalides étaient vraiment géniales. Forrester sortit de la salle de contrôle voisine pour récupérer l'outil.
« Je le modifie et on refait un test dans 2 heures. On m'a appelé pendant que vous étiez dans la piscine. Vous êtes attendu dans le bâtiment 30. Shapiro et Dubois ont une pause de 2 heures pendant qu'on réinitialise le simulateur de vol. Pas de répit pour les braves. Strat veut que vous en profitiez pour leur parler des astrophages. »
« Bien reçu, Houston. » C'était peut-être la fin du monde, mais j'étais dans le campus principal de la NASA et excité comme une puce. Je quittais le LFN et me dirigeais vers le bâtiment 30. Si je l'avais demandé, il m'aurait envoyé une voiture, mais je ne voulais pas. C'était à seulement 10 minutes de marche, et j'adorais me promener dans l'histoire spatiale de mon pays. Je passais la sécurité et entrais dans la petite salle de réunion. Martin Dubois, vêtu de son uniforme de vol bleu, se leva et me serra la main.
« Dr. Grace, heureux de vous revoir. »
Ses documents et notes étaient soigneusement étalés devant lui. Ceux d'Anne Shapiro étaient en désordre sur la table voisine. Sa chaise était vide, en revanche.
« Où est Annie ?» demandai-je.
Il se rassit. Même assis, il avait une posture droite, impeccable.
« Elle est aux toilettes, je crois. Elle ne va pas tarder. »
Je m'assis à mon tour et ouvris mon sac à dos. « Vous savez, vous pouvez m'appeler Ryland. Nous sommes tous docteurs ici. Nos prénoms suffiront. »«
Je suis désolé, Dr. Grace. J'ai été élevé comme ça. Mais vous pouvez m'appeler Martin, si vous le souhaitez. »«
Merci. » Je sortis mon ordinateur et le démarrai. « Comment allez-vous en ce moment ?»«
Très bien, merci. La docteur Shapiro et moi couchons ensemble désormais. »«
Ah ! Bien, bien. »
J'ai jugé plus prudent de vous en informer.
Il ouvrit son calepin et posa un stylo à côté.
Il ne devrait pas y avoir de secret au sein du noyau dur de la mission.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, cela ne devrait pas poser de problème.
Vous êtes le scientifique de l'équipage principal et Annie votre remplaçante. Aucun scénario ne prévoit que vous vous retrouviez ensemble dans le vaisseau. Mais, je veux dire, votre relation...
« En effet, » confirma Dubois. Je vais partir pour une mission suicide dans moins d'un an. Et si pour quelque raison je devais ne pas partir, c'est elle qui prendra ma place. Nous en sommes conscients tous les deux. Nous savons que cette mission se terminera par la mort de l'un d'entre nous.
Nous vivons des temps bien sinistres.
La docteur Shapiro et moi ne voyons pas les choses ainsi, rétorqua-t-il en croisant les bras. Elle et moi apprécions les relations sexuelles intenses.
Oui, oui, mais je n'ai pas besoin de connaître...
En plus, pas besoin de préservatif. Elle est sous pilule, et nous avons tous les deux subi des examens médicaux complets dans le cadre de la mission.
Je tapais sur mon ordinateur, espérant qu'il changerait vite de sujet.
C'est très agréable.
Ah, n'en pas douter.
Enfin, voilà. Je me suis dit que vous aviez le droit de savoir.
Oui. Non, enfin, peut-être.
La porte s'ouvrit, et Annie arriva entre-temps.
Désolé. Ah, j'avais tellement envie de faire pipi,
lança la microbiologiste la plus accomplie de la planète.
J'ai même failli me faire dessus.
Bienvenue parmi nous, docteur Shapiro. J'ai parlé au docteur Grace de nos relations sexuelles.
Je me pris la tête à deux mains.
Cool,
commenta Annie.
Bah oui, on n'a rien à cacher.
Si je me souviens bien, reprit Dubois, nous en étions à la biologie cellulaire des mitochondries de l'astrophage.
Oui, acquiesçai-je en me raclant la gorge. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle de Krebs de l'astrophage. Il est identique à ce qu'on observe dans les mitochondries terriennes, mais avec une variation.
Excusez-moi, une dernière chose,
m'interrompit Annie en levant la main.
Martine, nous avons un quart d'heure de battement entre ce cours et le prochain entraînement. Pourrions-nous nous retrouver dans les toilettes au bout du couloir pour faire l'amour ?
Oui, c'est une excellente idée, répondit Dubois. Merci de la proposition, docteur Shapiro.
Super.
Ils se tournèrent tous les deux vers moi, prêts à écouter mon cours. J'attendis quelques secondes de plus pour m'assurer qu'ils avaient terminé. C'était apparemment le cas. Donc, le cycle de Krebs de l'astrophage a une variation.
Attendez, vous l'appelez docteur Shapiro quand vous couchez ensemble ?
Bien sûr, c'est son nom.
J'avoue que ça me plaît, ajouta-t-elle.
Excusez-moi, je n'aurais pas dû poser la question. Donc, le cycle de Krebs...
Les données recueillies par Rocky sont toutes parfaitement exactes. La masse d'Hadriane équivaut à 3,93 fois celle de la Terre, tandis que son rayon est de 10 318 km, presque le double de la Terre. La planète tourne autour de Tau Ceti avec une vélocité orbitale moyenne de 35,9 km par seconde. Même sa position est précise à 0,00001%. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir pour planifier notre poussée d'insertion. Heureusement qu'il ne s'est pas trompé d'ailleurs. Autrement, l'insertion orbitale aurait été délicate. Peut-être même serions-nous morts. Bien évidemment, afin d'utiliser les moteurs tournants, j'ai dû désactiver la centrifugeuse. Rocky et moi flottons dans la salle de contrôle, lui dans son bulbe au plafond, moi sanglé dans le fauteuil du pilote. Un sourire idiot aux lèvres, je scrute l'image transmise par la caméra externe. Je survole une autre planète. Je ne devrais pas être si excité. Après tout, cela fait plusieurs semaines que je suis dans un autre système solaire. Néanmoins, cela reste une expérience ésotérique. Tau Ceti ressemble au Soleil. Elle est lumineuse, on ne peut pas trop s'en approcher, et elle émet sur les mêmes fréquences. Pour une raison mystérieuse, découvrir une autre planète est beaucoup plus enthousiasmant. Les nuages arachnéens d'Hadriane défilent en dessous de moi. Ou plutôt, les nuages arachnéens d'Hadriane bougent à peine, tandis que nous filons à toute allure. La gravitation d'Hadriane est supérieure à celle de la Terre. Aussi, notre vélocité orbitale est-elle supérieure à 12 km par seconde, ce qui était bien plus que la vitesse nécessaire pour orbiter au-dessus de la Terre. À présent, on perçoit beaucoup plus de détails de la planète que j'observe depuis 11 jours. Elle n'est plus simplement une boule vert pâle. Elle est entourée de rubans clairs et sombres, comme Jupiter et Saturne, mais au contraire de ces deux géantes gazeuses, Hadriane est une planète rocheuse. Grâce aux notes prises par Rocky, nous connaissons son rayon et sa masse,
ce qui signifie que nous connaissons sa densité. Et elle est bien trop dense pour n'être constituée que de gaz. Il y a bel et bien une surface là-dessous, même si je ne la vois pas. Que ne donnerais-je pour avoir un atterrisseur? En vérité, il ne me servirait à rien. Même si j'avais de quoi me poser sur Hadrian, son atmosphère m'écrabouillerait. Ce serait un peu comme se poser sur Vénus, ou Éride. Si seulement Rocky avait un atterrisseur, la pression là-dessous serait peut-être supportable pour un Éridien. En parlant d'Éride, Rocky est en train de calibrer un appareil dans son bulbe. Cela ressemble à un pistolet. Vu que nous n'avons pas encore provoqué de guerre spatiale, ce n'en est sans doute pas un. Il manipule l'objet d'une main, le tapote d'une autre, et tient dans deux pinces un rectangle noir relié à l'objet par un câble court. Sa cinquième main agrippe une poignée. Il fait quelques réglages avec ce qui ressemble à un tournevis, et soudain le rectangle noir vient à la vie. Il n'est plus complètement plan, mais texturé. Comme Rocky bouge son pistolet de gauche à droite, je vois la texture du rectangle changer.
Succès ? Fonctionner ?
Je me penche par-dessus le fauteuil pour mieux voir. Qu'est-ce que c'est ?
Attendre.
Il pointe le pistolet vers le moniteur de ma caméra extérieure, tourne quelques boutons, et je vois son rectangle noir afficher un disque. À y regarder de plus près, je constate que certaines parties du disque sont plus élevées que d'autres. On dirait une carte en relief.
Appareil, entendre lumière comme œil humain.
Oh, c'est une caméra ! Dit-il rapidement. Nous avons enrichi notre dictionnaire d'un nouveau mot, caméra.
Appareil, analyser lumière et montrer sous forme texture.
Oh, et vous pouvez percevoir cette texture ? Super !
Merci.
Il fixe sa caméra à la paroi du bulbe, la pointant vers mon moniteur principal.
Quelle longueur onde œil humain capable voir ? Question.
Tout ce qui se situe entre 380 et 740 nanomètres. La plupart des gens ne connaissent pas ces détails, mais il faut dire que la plupart des gens ne sont pas professeurs de sciences et n'ont pas des affiches géantes montrant le spectre visible punaisé dans leur classe.
Compris.
Il tourne quelques boutons sur son appareil.
Maintenant, voir ce que vous voir.
Vous êtes un ingénieur incroyable.
Non,
se défend-il en agitant une pince avec dédain.
Caméra, ancienne technologie. Affichage, vieille technologie. Les deux à bord vaisseau pour science. Petite modification pour usage intérieur.
J'ai l'impression que les Éridiens sont bien plus modestes que nous. À moins que Rocky appartienne à cette catégorie de personnes incapables d'encaisser un compliment.
Ceci, Hadrian, question ?
S'enquiert-il en désignant le disque sur son rectangle. Je vérifie la zone exacte qu'il montre et la compare avec mon moniteur. Oui, et cette partie est verte.
Mot inconnu.
Évidemment, les Éridiens n'ont pas de mots pour désigner les couleurs, rien de plus normal. Je n'avais jamais pensé que les couleurs pouvaient être mystérieuses, mais quand on n'en a jamais entendu parler... Nous avons des noms pour les bandes de fréquences dans le spectre électromagnétique. Mes élèves ont tous des yeux, qu'ils écarquillent avec incrédulité lorsque je leur dis que les rayons X, les micro-ondes, le Wi-Fi ou le violet sont des longueurs d'onde de la lumière. À vous de trouver ce mot, alors.
Oui, oui. Nommez cette couleur mi-rugueux. Affichage lisse pour lumière haute fréquence. Rugueux pour lumière basse fréquence. Cette couleur mi-rugueux.
Compris. En effet, le vert est au milieu des longueurs d'onde visibles pour les humains.
Bien, bien. Échantillon prêt. Question ?
Cela fait environ une journée que nous sommes en orbite, et j'ai activé l'échantillonneur dès notre arrivée. J'active le moniteur de l'unité de collecte externe. Elle fonctionne parfaitement et affiche depuis combien de temps elle est ouverte. En l'occurrence, 21 heures et 17 minutes. Oui, je crois.
Allez chercher.
Mouais. Gémis-je.
Les AEV sont tellement fastidieuses. Humain fainéant, allez chercher.
Je ris. Lorsqu'il plaisante, son ton est légèrement différent. J'ai d'ailleurs mis longtemps à l'identifier. Comment le décrire ? Tout est dans l'espace laissé entre les mots, dans la cadence.
Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je le reconnais quand je l'entends.
Depuis le moniteur de contrôle de l'unité de collecte, j'ordonne la fermeture des portes du dispositif et son retour en position horizontale. L'écran de contrôle confirme que la manœuvre est terminée, mais je préfère vérifier grâce aux caméras réparties sur la coque. J'enfile la combinaison d'AEV Orlan, j'entre dans le sas et démarre son cycle de dépressurisation.
Adrian est vraiment magnifique. Plusieurs minutes s'écoulent durant lesquelles j'admire l'énorme monde sans bouger, accroché à la coque. Des rubans vert sombre et clair enveloppent le globe et les reflets de Tossetti sont tout simplement sublimes. Je pourrais rester à la regarder pendant des heures.
J'ai sans doute eu à faire la même sortie au-dessus de la Terre. Dommage que je ne me rappelle rien.
J'aimerais tellement m'en souvenir, tellement. C'était sûrement tout aussi beau.
« Vous sortis très longtemps ?» me dit Rocky dans mon casque. « Vous en sécurité ?» question.
J'ai paramétré l'écran de contrôle des AEV pour que le micro de ma combinaison soit directement relié au haut-parleur de la salle de contrôle. J'ai également collé, à l'aide de rubans adhésifs, un micro-casque activable par la voix au bulbe de Rocky. Ainsi, celui-ci n'a rien d'autre à faire que parler pour que je l'entende.
« J'admire Adrian. C'est très beau.
Regardez plus tard. Récupérez échantillon maintenant. »
« Vous êtes un peu insistant. »
« Oui. »
Je progresse sur la coque baignée par la lumière d'Adrian. Tout est légèrement vert clair. Je trouve l'unité de collecte là où elle est censée se trouver. Elle n'est pas aussi grosse que je m'y attendais. Un demi-mètre de côté environ. Juste à côté, j'avise un levier entouré d'un ruban rayé rouge et jaune. Sur le levier, je lis en trois langues, anglais, russe, chinois, « Tirez levier pour libérer UCE ». J'accroche un filin de sécurité à un trou dans l'unité, sans doute prévu à cet effet, et tire sur le levier. Le boîtier se détache de la coque. Je retourne vers le sas en le tractant. Une fois à l'intérieur, je lance le cycle de pressurisation, puis me déséquipe.
« Tout normal ?» question,
s'enquiert Rocky.
« Oui. »«
Bien. Vous inspectez avec matériel science ?» question.
« Oui, tout de suite.
Préparez-vous au retour de la pesanteur, »
dis-je en activant la fenêtre de la centrifugeuse.
« Oui, pesanteur, »
acquiesce-t-il en agrippant des poignées avec trois pinces.
« Pour matériel science ?»
Dès que la centrifugeuse est active, je commence à travailler dans le laboratoire. Rocky s'installe dans le tunnel, au plafond, et me regarde attentivement. Enfin, il ne me regarde pas vraiment, il m'écoute. Je pose la boîte sur la table en acier et en ouvre le panneau qui faisait face à Tossetti. Et ce que je découvre me fait sourire.
Ce panneau était blanc lorsque nous avons commencé, lançai-je en levant les yeux vers Rocky. À présent, il est tout noir.
Pas comprendre.
L'unité a pris la couleur des astrophages. Nous avons récupéré beaucoup d'astrophages.
Bien, bien.
Durant les 2 heures qui suivent, je gratte les deux moitiés du contenant et je mets les deux groupes d'astrophages dans des boîtes différentes. Je rince le tout abondamment, puis j'attends que les échantillons tombent dans le fond. En récupérant les astrophages prisonniers, j'ai arraché un peu de la substance collante et je veux les en débarrasser à tout prix. Je pratique une série d'examens. Pour commencer, je teste les marqueurs ADN de quelques astrophages pour m'assurer qu'ils sont identiques à ceux trouvés sur Terre. C'est le cas. Les marqueurs que j'ai choisi de vérifier sont bien les mêmes. Ensuite, je vérifie la population des deux échantillons.
Intéressant.
Quoi intéressant ? Question ?
Demande Rocky en s'animant.
Les deux moitiés ont sensiblement la même population.
Pas prévu.
Pas prévu, en effet.
Un côté de l'unité faisait face à Tossetti, tandis que l'autre était tourné vers Adrian. Les astrophages migrent pour se reproduire. Pour chaque astrophage fringant se dirigeant vers Adrian avec l'œil pétillant, il en revient deux. Cela signifie qu'il devrait y avoir 2 fois plus d'astrophages sur la partie qui faisait face à la planète, ce qui n'est pas le cas. La population qui repart d'Adrian est identique à celle qui s'y rend. Rocky progresse dans le tunnel fixé au plafond pour mieux voir ce que je fais.
Erreur de calcul ? Question ?
Comment compter ? Question.
Je mesure la chaleur émise par les deux échantillons. C'est un moyen infaillible de compter les astrophages. En effet, chacun d'entre eux a une température de 96,415 degrés. Plus il y a d'astrophages, plus la plaque de métal sur laquelle je les ai posés absorbe de chaleur.
Excellente méthode, approuve Rocky en frappant dans deux de ses pinces.
Donc, population identique.
Comment ? Question.
Je ne sais pas.
J'étale un peu des astrophages étant reparti d'Adrian pour retourner vers Tossetti sur une lame que je mets sous un microscope.
Quel matériel scientifique ? Question.
Demande Rocky en me suivant dans son tunnel.
C'est un microscope. Il aide à voir de très petites choses. Les astrophages, par exemple.
Incroyable.
J'examine l'échantillon et j'en reste bouche bée. Il n'y a pas que des astrophages là-dessous. Les points noirs familiers des astrophages sont partout. Mais je vois également des cellules translucides, des petites choses semblables à des bactéries et des plus grosses, comparables à des amibes. Il y a des choses fines, d'autres épaisses, des spirales. Il y en a trop pour que je puisse les compter. Trop de trucs différents. Un peu comme si j'examinais une goutte d'eau prise dans un étang.
Waouh ! La vie ! Il y a plein de formes de vie là-dedans. Pas uniquement des astrophages. Il y a plein d'espèces différentes.
Rocky rebondit littéralement sur les parois de son tunnel.
Incroyable, 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 incroyable.
Adrian n'est pas une planète ordinaire. C'est une planète qui abrite la vie, comme la Terre ou Éride. Ça explique la présence de tout ce méthane. La vie produit du méthane.
Rocky se fige. Puis il se dresse sur ses pattes. Je ne l'ai jamais vu soulever sa carapace si haut.
Vie expliquée, contradiction, population. Vie tout expliquée.
Quoi ? Je ne l'ai jamais vu s'exciter à ce point.
Comment ? Je ne comprends pas.
Il tapote la paroi du tunnel en montrant le microscope.
Vie sur Adrian mange astrophage. Population équilibrée. Ordre naturel. Explication à tout.
Oh mon Dieu ! Mon cœur bat si fort qu'il menace de sortir de ma poitrine. L'astrophage a un prédateur. Il y a une véritable biosphère sur Adrian. Pas seulement des astrophages. Il y a même une biosphère active dans la ligne de Petrova. C'est là que tout a commencé. Forcément. Comment expliquer autrement que d'innombrables et diverses formes de vie aient évolué pour migrer dans l'espace ? Elles ont toutes la même racine génétique. L'astrophage est une forme de vie parmi d'autres ayant évolué ici. Comme pour toute vie, il y a des variances et de la prédation. Adrian n'est pas un astre de plus dans la liste des victimes des astrophages. Adrian est le monde natal des astrophages et celui de ses prédateurs.
C'est fantastique, m'écriai-je.
Si nous trouvons le prédateur,
nous ramener prédateur chez nous,
m'interrompit Rocky d'une voix beaucoup plus haute que la normale.
Prédateur manger astrophage, se reproduire, manger encore, encore, encore. Étoile sauvée.
Oui, confirmai-je en plaquant mon poing contre la paroi transparente du tunnel.
Check.
Quoi ?
Question.
Comme ça, dis-je en répétant mon geste.
Faites comme ça.
Il reproduit mon geste à l'intérieur du tunnel.
Ça se fête.
Faites.